Bonjour, c'est Isabelle Labéry. Nous sommes le 4 avril 2024, il y a 771 jours que la Russie a envahi l'Ukraine.
Slava Ukraine.
Slava Ukraine. Героям слава.
Guerre en Ukraine, le podcast de la rédaction internationale de Radio France.
Dans cet épisode, la visite d'Anthony Blinken à Versailles, le secrétaire d'État américain s'est rendu sur un site de fabrication des canons César livrés à Kiev, un coup de fil inédit entre Paris et Moscou et des témoignages rares de déserteurs russes réfugiés en France. Mais avant tout cela, on va retrouver Agathe Mahué.
Hello Isa, bonjour de Kiev. Bon, il fait doux ici, hein. C'est vraiment le printemps qui s'installe. Un petit peu trop même, en fait, il a fait 24 degrés ces derniers jours.
Agathe, reporter à France Info, vient d'arriver en Ukraine. Avec Yachar Fazilov, elle va couvrir l'actualité pendant tout le mois d'avril.
Et ça nous a fait drôle d'ailleurs, avec Yachar, hier, on est retourné à Boutcha pour voir comment la ville se relevait 2 ans après la découverte du massacre de civils. Il y avait un tel décalage entre cette douceur, ce petit vent chaud, ce soleil et le souvenir glacial de ce qu'a été Boutcha il y a 2 ans tout juste. Ces cadavres dans la boue, cette ville cimetière dont on aurait dit qu'elle ne sortirait jamais de l'hiver. Et voilà, en fait un deuxième printemps est revenu et les gens retapent leur maison. Beaucoup d'entre eux ont des histoires tragiques mais ils s'accrochent, ils reviennent, ils veulent vraiment aller de l'avant. Et on s'est dit que Boutcha, c'était vraiment comme un phénix. Finalement, ça faisait plutôt du bien de voir un peu de signaux positifs, tu vois, un peu d'espoir. Parce que tu as vu que Volodymyr Zelensky avait, ça y est, décidé d'abaisser l'âge de la mobilisation de 27 à 25 ans. Parce que le gouvernement cherche à renouveler les troupes au front. Mais c'est une mesure qui casse un peu le moral des jeunes ici. Et j'ai croisé une amie ukrainienne lundi dans Kiev. C'était drôle d'ailleurs parce que ça donne l'impression que c'est un village, qu'on se croise comme ça par hasard, alors que c'est vraiment immense. Et elle m'a dit qu'elle ne resterait pas ici. Elle veut partir, comme beaucoup de ses amis, retourner en Europe, en France en l'occurrence, parce que c'est trop dur pour le moral d'être en Ukraine en ce moment. Voilà, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus entendu personne crier « Slava Ukraini » dans les rues. Je ne sais pas si ça reviendra. Allez, je te laisse, Isa. Demain, avec Jérémy Thuil et toujours Yachar Fazilov, nous partons vers Kharkiv.
Bien loin de l'ambiance printanière de la banlieue de Kiev, Kharkiv, bombardé sans relâche depuis 2 semaines. Dans l'obscurité de la nuit, un drone kamikaze s'écrase sur une zone résidentielle. D'un seul coup, l'immeuble frappé se transforme en gigantesque torche. Un tourbillon de flammes monte vers le ciel. Des débris incandescents s'envolent comme des lucioles. Cette nuit-là, les frappes russes ont fait au moins 4 morts. Des civils plongés dans leur sommeil. Un responsable de la ville explique que des membres d'une équipe de secours arrivés sur place, ont été tués par une seconde frappe au même endroit. Les défenses antiaériennes ukrainiennes sont à la peine et les batteries américaines Patriot louées pour leur efficacité plus assez nombreuses. Kiev en a 4 au total, mais plusieurs de leurs éléments ont été récemment frappés par les Russes. Ils sont vraisemblablement détruits et les munitions, elles, manquent toujours à l'appel.
La première priorité, c'est l'équipement et notamment c'est l'artillerie.
Gaël Vessière, ambassadeur de France en Ukraine, était ce jeudi matin au micro de Jérôme Chapuis sur France Info.
Puisque les Russes tirent 8 fois plus de munitions d'artillerie que les Ukrainiens.
Ouais, le secrétaire général de l'OTAN, il disait hier que les soldats ukrainiens devaient rationner les obus d'artillerie qu'ils tirent face aux troupes russes, faute d'en recevoir suffisamment. Comment vous l'expliquez ça ?
Écoutez, l'Ukraine n'a pas la même base industrielle que la Russie.
Mais il y a l'Europe derrière, il y a les Américains.
Il y a l'Europe derrière. Nous sommes en train de livrer plus d'obus. La France elle-même en produit beaucoup plus, puisqu'on en produisait 1000 par jour avant le début du conflit. Maintenant, je crois que l'objectif, c'est d'arriver à 5000 d'ici la fin de l'année. La France a annoncé qu'elle participerait au mécanisme mis en place par les Tchèques pour acheter des obus là où ils se trouvent. Et puis, il y a des dispositifs européens pour financer la production d'obus. Tout ça prend du temps et c'est pas si facile, puisqu'il y a notamment des des produits qui sont essentiels pour la production d'obus qui manquent, notamment la poudre. Et le ministre des Armées a annoncé que l'inauguration en France prochainement d'une nouvelle usine de production de poudre, précisément. Donc il faut essayer de penser l'ensemble de la chaîne qui permet d'aller de la poudre à l'obus. Mais ceci dit, le soutien, il est là et il augmente. La France a aussi annoncé par la voix du président de la République, celui du ministre des Armées récemment, plus de moyens, des véhicules de l'avant blindés, des missiles Aster.
Mais il y a des retards. Scalp, quand etc. le président de la République parle de troupes au sol, et en même temps, on voit bien que les livraisons d'armes ont du retard. C'est pas contradictoire, ça ?
C'est deux choses de nature totalement différentes, parce que quand le président de la République, d'abord, il a pas parlé, à mon sens, de troupes au sol, il a dit qu'il ne fallait rien exclure. Mmh. Mais je pense que c'était très important de réintroduire ce que les stratèges appellent l'ambiguïté stratégique, précisément, c'est-à-dire que les Russes sachent que nous sommes prêts à aller jusque-là si c'est nécessaire. Ça ne veut pas dire que nous allons le faire, mais ça veut dire que c'est une possibilité et que ce n'est pas précisément exclu. Et je pense que ça, c'est extrêmement important dans le cadre de ce conflit, de poser ça, parce que sinon, si nous avons des limites a priori conventionnelles classiques et que les Russes de l'autre côté n'en ont pas, évidemment, c'est le jeu est déséquilibré.
De son côté, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a amené le secrétaire d'État américain à Versailles, sur le site de Nexter, filiale du groupe franco-allemand KNDS, qui produit les canons César livrés à Kiev. Il y a annoncé un rythme de production soutenu.
Ce canon César, il est devenu le symbole de cette coalition artillerie, avec une augmentation significative des capacités de production. 2 par mois, désormais 6 par mois, et peut-être donner ce chiffre qui n'a jamais été donné publiquement, mais qui a été présenté par les équipes de KNDS à Anthony il y a quelques instants, nous allons rehausser la production jusqu'à 12 canons par mois de canons César dans les temps qui viendront. En tout cas, les canons, pièces d'artillerie qui vont sur le châssis de ce canon César, ce qui va montrer justement notre capacité à répondre présent, non seulement aux besoins de l'Ukraine, mais cher Anthony, également à tous les partenaires européens, membres de l'OTAN, qui sont en train d'arriver à leurs 2% du PIB, qui sont en train d'acquérir des systèmes d'armes pour eux-mêmes contribuer à la défense et à la dissuasion collective de l'ensemble de l'Alliance.
Cette aide sera la bienvenue car la bataille défensive de l'Ukraine a atteint un moment critique. C'est ce que dit le secrétaire d'État américain. Notre politique depuis le premier jour est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider l'Ukraine à se défendre contre l'agression russe. Voilà ce que dit Anthony Blinken, qui ajoute toutefois ceci lors de son passage au ministère des Affaires étrangères. En même temps, nous n'avons jamais ni soutenu ni permis les frappes de l'Ukraine en dehors de son territoire. Référence au récent raid de drones conduit par Kiev sur une usine d'assemblage de drones Shahed au Tatarstan, république russe située à plus de 1000 km de la frontière ukrainienne. Au même moment, les discussions avec Moscou se tendent de plus en plus. Pourtant, pour la première fois depuis octobre 2022, le même Sébastien Lecornu s'est entretenu par téléphone ce 3 avril avec son homologue russe. Mais on peut dire que la conversation a fini en eau de boudin, personne ne donnant la même version des faits à l'issue de cet échange, au point qu'Emmanuel Macron a dénoncé, je le cite, les commentaires baroques et menaçants des Russes. Bonjour Sylvain.
Bonjour Isabelle.
Sylvain Tronchet, tu es le correspondant de Radio France à Moscou. Cet appel a surtout montré qu'il est devenu quasiment impossible pour Paris de parler avec Moscou. C'est ce que tu dis, on échange et rien ne change.
Oui, un dialogue de sourds, hein, c'est ce qu'il faut retenir de la conversation entre Sébastien Lecornu et Sergueï Shoigu. Officiellement, le ministre français voulait parler lutte contre le terrorisme islamiste suite à l'attaque du Crocus City Hall revendiquée par Daesh, mais son homologue russe a rappelé que la position de Moscou était que cet attentat avait été commandité par l'Ukraine, aidé en cela par ses alliés occidentaux. Sergueï Shoigu s'est même interrogé un rien perfidement sur le fait que les services français puissent être derrière cet attentat. À Moscou, en fait, la cause est entendue depuis un moment, comme le disait sans détour hier un personnage clé du pouvoir, le secrétaire du Conseil de sécurité, Nikolai Patrouchev.
Les auteurs du massacre du Crocus City Hall ont été financés par l'Ukraine. Or, on sait que le régime de Kiev n'est pas indépendant, mais qu'il est contrôlé par les anglo-saxons. Les occidentaux n'essaient même pas de cacher leur participation à la planification et à l'organisation prévention des attaques terroristes.
Et Nikolaï Patrouchev, lorsqu'il dit cela, fait référence au fait que les États-Unis avaient émis une alerte début mars sur la possibilité d'un attentat en Russie. Les Américains avaient apparemment intercepté des informations du côté de l'État islamiste et les avaient rendues publiques. Mais pour Moscou, c'est au contraire la preuve que Washington est impliqué. Dans ces conditions, on se doute que les dénégations de Sébastien Lecornu, affirmant que l'Ukraine n'y est pour rien face à Sergueï Shoigu hier, n'ont pas dû beaucoup faire vaciller le ministre russe de la Défense.
Et en plus, cet appel, Sylvain, il arrive vraiment au moment où la France est pile dans le collimateur des Russes.
Oui, le coup de fil de Sébastien Lecornu arrive au moment où la Russie a lancé une grande offensive informationnelle contre la France, qui était peut-être un peu épargnée parfois au détriment des États-Unis et surtout de la Grande-Bretagne, mais depuis les propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes au sol en Ukraine, depuis la réaffirmation par Paris de son soutien à Kiev, il ne se passe plus une journée sans que les propagandistes russes menacent de bombarder Paris, rappellent que les missiles Scalp utilisés par l'armée ukrainienne pour viser les navires russes en mer Noire sont de fabrication française. La France est accusée de tous les maux, d'envoyer des mercenaires en Ukraine et même, hier carrément, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que la France était en train de préparer un bataillon de la Légion étrangère pour intervenir en Ukraine. C'est évidemment à peu près aussi exact que le fait que le ministre français ait affirmé hier que la France était disposée à dialoguer aux conditions de la Russie concernant le conflit en Ukraine. C'est ce qu'a affirmé le ministère russe de la Défense après le coup de fil. Cela a été démenti par la France dans la foulée. Mais tout cela a un sens. Cette affirmation permettra à la Russie de dire que ce sont les Occidentaux qui ne veulent pas la paix alors qu'elle est ouverte au dialogue.
Eux aussi, ils sont russes, mais ils ont refusé d'épouser le narratif du Kremlin, refusé de soutenir la guerre contre l'Ukraine et surtout refusé d'y participer. Pour échapper à la mobilisation ou à la prison, ces déserteurs ont trouvé refuge en France. Bonjour Boris Soumagne.
Bonjour à tous.
Avec un autre journaliste de Radio France, William Delesseux, vous avez fait les comptes. À ce jour, 66 hommes et deux femmes ont obtenu le statut de réfugiés dans notre pays. Et tu as pu en rencontrer deux, des déserteurs qui jusqu'ici ne s'étaient jamais exprimés dans les médias.
Oui, et le premier s'appelle Sacha. Il s'est réfugié sur la Côte d'Azur. Il fait très beau ce jour-là quand nous le rencontrons. Sacha porte de larges lunettes de soleil. Nous entrons dans une petite pièce à l'abri des regards. Les volets sont mi-clos, mais Sacha préfère quand même garder ses lunettes de soleil.
Je ne peux pas dire que je suis totalement en sécurité, même en étant ici, en France, avec ses espions, ses mouchards, parce que l'État russe veille. Alors certes, la sécurité est meilleure ici, je me sens mieux, mais le danger de ces espions, leur volonté de vengeance envers les traîtres, ça me rend un peu tendu.
Vous l'entendez, la voix de Sacha a été modifiée. Et d'ailleurs, Sacha, c'est un prénom d'emprunt. Le jeune homme de 23 ans est méfiant, sur ses gardes, depuis un an et demi.
À l'hiver 2022, on m'a convoqué devant le commissariat militaire de ma ville. Et on m'a menacé, en me disant que si je n'étais pas volontaire pour aller en Ukraine, eh bien, on m'y obligerait.
Alors Sacha décide de fuir son pays. Il prend la route, Turquie, Bosnie et enfin la France. Il est libre, mais la liberté a un prix en Russie. Et c'est sa famille qui va le payer.
Ma mère a été licenciée de son travail. Son supérieur lui a dit « Tu es la mère d'un déserteur et des employés comme toi, on n'en a pas besoin. » Ensuite, on a menacé mon petit frère en lui disant que dès qu'il aura 18 ans, il faudra qu'il se prépare à entrer dans l'armée. Quant à mon père, il a reçu des menaces du commissariat militaire. On lui a dit « Si ton fils ne revient pas, c'est toi qui vas y aller à sa place. »
Sacha, lui, est seul ici en France. Il a obtenu l'asile il y a un an, mais il vit d'expédients. Il dort dans des squats, parfois même à la rue. Pourtant, il ne regrette pas d'avoir quitté la Russie. Cette guerre en Ukraine, il était hors de question qu'il la fasse.
Vous savez, si un autre pays avait tenté d'envahir ma patrie, je n'aurais eu aucun problème à prendre les armes. Mais en l'occurrence, envahir des terres qui ne sont pas les nôtres, tuer les femmes, les enfants et les vieillards, faire partie de cette armée criminelle dans une guerre criminelle, Je ne pourrais pas vivre toute ma vie après ça.
Durant tout notre entretien, Sacha, méfiant, aura à garder ses grosses lunettes de soleil. Parce que si Sacha a échappé à la guerre, il n'est pas prêt de trouver la paix.
Boris, tu as aussi recueilli le témoignage d'un deuxième déserteur qui, lui, s'est réfugié en Île-de-France.
Oui, il s'appelle Vlad, il a 53 ans. Dès le début de l'invasion russe en Ukraine, Vlad manifeste publiquement son opposition à cette guerre. Ça lui vaut 6 mois de prison. À sa sortie, il reçoit son ordre de mobilisation. Il quitte aussitôt son pays, pour toujours.
Je suis certain que je ne pourrai plus y retourner parce que ce n'est plus la Russie. C'est maintenant une maison de fous. Ça ne sera plus jamais comme avant. C'est comme si j'avais quitté l'Allemagne nazie et qu'on me disait « Tout va très bien, vous pouvez revenir ».
Et oui, pas de retour possible. Vlad souhaite d'ailleurs refaire sa vie ici en France. Il a même coupé les ponts avec ses connaissances en Russie.
Je ne communique plus avec eux. Je n'ai plus qu'un seul ami là-bas qui comprend tout et qui n'a pas perdu la tête. Les autres, c'est fini. Sous l'effet de la propagande, ils sont devenus des zombies.
Aujourd'hui, Vlad apprend le français. Il espère bientôt trouver un travail dans le bâtiment.
Et si ces deux hommes ont obtenu l'asile en France, c'est parce qu'il y a un assouplissement des conditions d'obtention du statut de réfugié ?
Oui, la Cour nationale du droit d'asile s'est adaptée à l'actualité. En juillet dernier, au regard des crimes de guerre commis par l'armée russe en Ukraine, elle décide que les déserteurs pourront obtenir le droit d'asile. Mais pour cela, ils doivent fournir des preuves. Et c'est pas toujours simple, selon l'avocat Sylvain Saligari, qui a conseillé plusieurs d'entre eux.
Si vous n'avez par exemple pas de convocation, pas de documents pour justifier que vous avez été réellement appelé dans l'armée russe, vous pouvez être en grande difficulté pour arriver à convaincre les juges. Et bien souvent, quand vous fuyez votre pays, vous n'avez pas de documents dans votre valise, vous avez pris la fuite.
Et voilà pourquoi un peu plus de la moitié des dossiers de déserteurs russes ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile.
Bonjour Isabelle, merci pour ton message.
Pour terminer cet épisode, écoutons Katerina Roova qui nous laisse un message depuis Kiev.
Ce week-end, on a eu un très beau temps. Il faisait 22 ou 23 degrés, ce qui est un peu fou pour la fin de mars. Mais c'était vraiment une belle journée. Dimanche, je rentrais de ma répétition de ma chorale. J'ai eu l'impression que les jeunes, ils attendaient vraiment ce jour-là pour mettre leurs meilleurs habits vraiment à la mode, comme si c'était un fashion week. J'ai vu une belle fille dans une robe blanche. C'était vraiment une belle journée.
De manière délibérée, Katerina s'attache aux petites et aux belles choses de son quotidien.
Parce que oui, c'est vrai, quand on m'entend, on a l'impression que rien ne se passe. Mais les nuits, quand ta porte tremble à cause des explosions quelque part, je n'en en parle pas. Parce que oui, j'ai envie de montrer ce côté qu'on résiste, qu'on vit notre vie malgré tout. Et en plus, on veut la vivre encore mieux. Parce qu'on ne sait jamais combien il nous reste. C'est un petit peu une roulette russe, comme on dit. Bon, alors je te souhaite une belle journée et fais-moi signe quand tu seras disponible à Kiev.
Depuis l'invasion massive de l'Ukraine, j'avais du mal un petit peu de composer la musique. Par contre, j'avais besoin de m'exprimer, d'exprimer ma douleur dans la poésie. Et j'ai composé des poèmes. Et cette semaine-là, j'ai l'intention de les enregistrer. Et mon ami Nicolas, il fera toute l'ambiance derrière, je veux dire, des sons, la musique. On va faire quelque chose d'intéressant, j'espère. C'est un poème qui s'appelle « Nous avons un pénible voisin ». Nous avons un pénible voisin qui n'a jamais été un ami, qui cachait un fusil sous son lit. En même temps, il voulait qu'on dorme chez lui et qu'on obéisse. Nous avons un pénible voisin. Il nous a réveillés à 4 heures du matin. Il a enfoncé notre porte. Il a dit de nous taire, de vider nos poches, de nous mettre à genoux. Il nous empêche de sortir de la cave, d'appeler au secours. Nous avons un pénible voisin malsain. Il a toujours faim. Il dévore nos réserves, même le sang de nos chiens. Il tue nos pères. Il viole les enfants en face de leur mère. Il arrache des boucles d'oreilles pour les offrir à sa fiancée. Nous avons un terrible voisin. Et tout le monde le sait. Tout le monde sait où il habite, où il cache son argent et comment s'appellent ses médecins. Habituellement, je suis une fille gentille, mais pas quand on me fait mal. Je vais citer Boris Vian en disant qu'un beau matin, avec mes parents, avec tous mes ancêtres et nos anges gardiens, j'irai cracher sur ta tombe, tyran.
Біля мого мостечка, мостечка.
Katerina écrit, mais d'abord elle chante. Les voix que vous entendez ici, c'est sa voix sur une chanson traditionnelle dans laquelle une jeune femme attend son amoureux près d'un petit pont de bois.
Ми власне росами, росами.
Guerre en Ukraine, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Agathe Mahué avec Yachar Fazilov, Sylvain Tronchet, Boris Loumagne et Katerina Rohova. Mise en onde, Sébastien Royer. Production, Isabelle Labéry. On se retrouve jeudi, épisode spécial, grand entretien avec Tetiana Ogarkova et Volodymyr Yermolenko qui étaient de passage à Paris cette semaine.
C'était Guerre en Ukraine. Le podcast de la rédaction internationale de Radio France.